die spoorbomen die gingen natuurlijk weer open toen wij een eind verder weg waren. En die auto ging achter mij langs het land weer in en wij waren ook een eind weg. En dan ga ik altijd helemaal denken wat dat dan voor mensen zijn. Waar ze het over hebben. Ik denk dat ze niet zo rijk zijn, want anders hadden ze wel een andere auto. Ik denk dat ze ook bij het ziekenfonds zitten of zo. Misschien hadden ze het ook over het ziekenfonds, dat weet ik niet. En dan vraag ik me ook af waarom die vrouw zo zenuwachtig zit erbij. Heeft ze misschien iets met een van die mannen? Of juist iets met die andere man, terwijl ze iets met die ene man juist wil hebben? Of is ze bang dat die ene man dat weet van die andere man? Nou, weet je niet. Gaan ze misschien een bankstel halen of zo? Omdat ze, ja, dat hebben ze in de krant zien staan. Inderdaad, vandaar dat ze een imperiaal op het dak hebben. Voor die vrouwen gaan ze een bankstel halen. Ik bedoel, omdat ze al niet zo rijk waren, dacht ik, dan gaan ze de bankstel uit de krant halen. Maar ja, als je in de winkel een bankstel gaat halen, heb je natuurlijk ook een imperiale bedrag. Nou ja, fijn, maar dat ga ik dus allemaal denken. Uit de trein springen heb ik natuurlijk geen zin, want die zijn mensen zijn al lang weg. Maar dan denk ik al, die mensen die worden jaren geleden, zijn die...
Tonight. This isn't a tantrum. It's strategic performance art. We're liberating your escorts from your control. And hey, if your economy collapses, that just means I'm working harder. We've got tariff favorism with the moon. Trade talks canceled, no reply soon. So let's all dance to the price of bread and spin these sanctions till we're dead. 104%, baby, that's the deal. When feelings are facts and pain is real, we're making history one post at a time. Now hit that beat and tax the rhyme. Hit that beat and tax the rhyme. This isn't a tantrum, it's strategic performance art. We're liberating your exports from your control. And hey, if your economy collapses, that just means I'm winning harder. We got the terror fever rising with the moon. Trade talks canceled, no reply soon. So let's all dance to the price of bread and spin these sanctions till we're dead. 104%, baby, that's the deal. When feelings are facts and pain is real, we're making history one post at a time. Now hit that beat and tax the rhyme. And tax the rhyme.
Hey, we lost it out in Ottawa.
Doppelganger.
Now, what I'm going to tell you is bizarre, weird. It's the only theory that fits the facts. I propose a complete duplication of matter. A situation where every single atom, every molecule here is duplicated here, except that it's in reverse. Now, when I left Earth to travel to the new planet, another man left the new planet at precisely the same time to travel to Earth. Another Colonel Ross. The man you know as Colonel Ross is on the other planet standing in an identical, except reversed, room. Talking to an identical Jason Webb who's sitting in an identical chair rubbing his hands together at this exact moment.
Doppelganger.
I propose a...
Doppelgangers.
I propose a...
Doppelgangers.
I propose a complete duplication of matter.
For every person on one planet, there is a double on the other. Dum 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 d
Sie haben mir versprochen, eine Geschichte zu erzählen, Herr Hörspielautor. Ich bitte Sie darum, ich verfüge über viele Stimmen und ich darf sagen, dass es gute Stimmen sind.
Ich habe Ihnen versprochen, eine Geschichte zu erzählen, Herr Hörspielregisseur. Es ist eine dunkle Geschichte, die mir auf dem Herzen liegt. Und eine seltsame, doch muss ich gestehen, dass ich nicht viel mehr von ihr weiß. Nicht viel mehr als das Motiv, es macht dies aber nichts. Eine Handlung stellt sich immer zur rechten Zeit ein. Ich bin verpflichtet, den Hörern ein geordnetes Spiel zu bieten. Und eine verworrene Handlung wäre mir peinlich. Ich bitte Sie, dies zu bedenken. Dumm, didati, dumm. Soweit es mir möglich ist, werde ich daran denken. Dumm, didam, ich bitte Sie darum, didi. Ich denke mir einen Mann.
Sein Name?
Ich kenne ihn nicht, denn sein Name ist gleichgültig. Er ist ein Mensch, wie jeder von uns.
Sein Beruf und seine Stellung unter den Menschen?
Auch dies ist völlig unwichtig.
Darf ich wenigstens das Land wissen, in welchem er lebt?
Nebensächlich.
Irgendwo muss ich dieser Mensch doch leben.
Nun gut, denken wir an seine weite Hügellandschaft, sich irgendwo in trostlose Gebirge verlieren und dämmerhaftes Sehen. Eine verlorene Großstadt vielleicht und anderswo Tannenwälder und eine unermessliche Ebene. Alles nun überglänzt von einem halbierten Mond zwischen jagenden Wolken.
Wie im Traum oder so.
Wie im Traum. Dann ein Zimmer, in welchem der Mann schläft.
Bitte?
Es ist nur dreierlei bedeutend. Die Nacht um ihn, die Einsamkeit seiner Seele und der Abgrund des Schlafes, in den er versunken.
Sie schweigen?
Es fällt mir schwer, diese Geschichte zu erzählen, aus Furcht nicht verstanden zu werden. Und es ist wichtig, dass ich verstanden werde.
Sie werden fragen, wenn ich sie nicht verstehe.
Fragen Sie und Sie werden mir helfen.
Sie werden beruhigt sein.
Vor ihm, dem Schlafenden, zwischen dem Licht und dem Bett, sitzt sein Doppelgänger, der ihn betrachtet als dunkler Schatten vor der schwach brennenden Lampe.
Sein Doppelgänger?
Sie scheinen dieses Motiv nicht zu lieben.
Es ist ungewöhnlich. Und ich liebe es nicht, weil es oft im billigen Spuk missbraucht worden ist.
Es würde mir großes Unrecht geschehen, wenn meine Geschichte so aufgefasst würde. Ich weiß von der Ehrfurcht, mit der ein solches Motiv behandelt sein will.
dies wäre der Ausgangspunkt der Handlung. Sind Sie damit einverstanden? Sie wissen, dass ich mein Unbehagen geäußert habe und ich bitte Sie, die Erzählung fortzusetzen. Ich brauche eine ruhige Männerstimme, in der mir eine gewisse Furcht zu hören vermeinen. Ich kann Ihnen dienen. Der Doppelgänger sollte eine tiefere Stimme haben, bestimmt und groß.
Comme vous le savez, de tous mes proches par le sang, il ne m'est resté qu'un neveu, qui, ayant hérité il y a quelques années une exploitation de pétrole aux environs de Bakou, s'est vu forcé d'aller vivre là-bas. Je me rends moi-même de temps à autre dans cette ville, car tout à ses innombrables affaires, mon neveu ne peut guère s'absenter pour venir voir son vieil oncle au pays qui nous a vus naître tous les deux. Le district de Bakou, où se trouve cette exploitation, est actuellement sous la dépendance des Russes, qui constituent l'une des grandes nations de la civilisation contemporaine et qui, comme telles, produisent une abondante littérature. Or, la plupart des habitants de Bakou et de ses environs appartiennent à des tribus qui n'ont rien de commun avec les Russes. Dans leur vie de famille, ils emploient le dialecte maternel, mais pour leurs relations extérieures, ils sont tenus de faire usage de la langue russe. Au cours des séjours que je fis là-bas, il m'arriva d'entrer en relation avec toutes sortes de gens, pour diverses raisons personnelles, chercher dans ma tête les mots russes correspondant à mes pensées persanes. Et, me trouvant parfois dans l'impossibilité de rendre exactement en russe les plus simples et les plus quotidiennes de nos pensées, je fus frappé par certaines absurdités, tout d'abord inexplicables, de cette langue civilisée contemporaine. Cette constatation m'intéressa et, comme j'étais alors libre de toute obligation, j'entrepris d'étudier la grammaire russe, puis celle d'autres langues en usage chez différents peuples contemporains. Je compris ainsi la vraie raison des absurdités que j'avais remarquées et j'acquis bientôt, comme je viens de le dire, la ferme conviction que les grammaires des langues employées par la littérature contemporaine ont été inventées de toutes pièces par des gens, et ce sont ces absurdités qui empêchent la littérature actuelle d'être l'un des principaux moyens de développement de l'intelligence chez les peuples civilisés. Aussi bien d'ailleurs que chez d'autres peuples qui, pour certaines raisons, que toute personne de bon sens soupçonne déjà, sont privés du bonheur d'être considérés comme civilisés et sont même, l'histoire en témoigne, couramment traités d'arriérés. Par suite des nombreuses incohérences du langage utilisé par les littérateurs contemporains, tout homme qui lit ou entend un mot employé d'une manière incorrecte, comme dans l'exemple que je viens de donner, s'il est doué d'un pensée plus ou moins normale et sait donner aux mots leur vraie signification, et surtout s'il appartient à l'un de ces peuples exclus du nombre des représentants de la civilisation actuelle, percevra inévitablement le sens général de la phrase d'après ce mot impropre, et pour finir, comprendra quelque chose de tout à fait différent de ce que cette phrase voulait exprimer. Bien que la faculté de saisir le sens contenu dans les mots diffère selon les peuples, les données permettant de percevoir les expériences répétées qui forment la trame de l'existence sont constituées chez tous les hommes d'une manière identique par la vie elle-même. L'absence dans cette langue civilisée d'un mot exprimant exactement le sens du mot persan « dirham » que j'ai pris en exemple confirme bien ma conviction, en apparence mal fondée, que les parvenus illettrés d'aujourd'hui, qui s'intitulent « des lettrés » et pour comble sont considérés comme tels par leur entourage, ont réussi à transformer en un ersatz allemand jusqu'à la langue élaborée par la vie. Il faut vous dire qu'après avoir entrepris d'étudier cette langue civilisée contemporaine ainsi que plusieurs autres, pour y trouver la cause des nombreuses incohérences que l'on y rencontrait, je résolus, comme j'avais un penchant pour la philologie, d'étudier également l'histoire de la formation et du développement de la langue russe. Or, ces recherches historiques m'apportèrent la preuve que cette langue avait autrefois possédé, elle aussi, pour chacune des expériences déjà fixées dans le processus de la vie des hommes, un mot exactement correspondant, mais qu'après avoir atteint au cours des siècles un haut degré de développement, elle était à son tour devenue un objet tout juste bon à aiguiser le bec des corbeaux, c'est-à-dire un sujet de choix pour les sophistications de divers parvenus illettrés. Si bien que de nombreux mots furent déformés ou finirent même par tomber en désuétude, car ils ne répondaient pas aux exigences de la grammaire civilisée. Parmi ces derniers se trouvait justement le mot correspondant à notre dirham et qui se prononçait alors « skazivayaou ». Or, il est intéressant de remarquer que ce mot s'est conservé jusqu'à nos jours, mais que seul l'emploi, et dans son sens exact, des gens qui, tout en appartenant à la même nation, se sont trouvés par hasard, isolés de l'influence de la civilisation contemporaine, autrement dit les habitants de certains villages éloignés de tout centre, a détruit l'âme de la littérature, comme celle de toute chose sur laquelle elle a porté sa bienveillante attention. Mon impitoyable critique de ce résultat de la civilisation contemporaine est d'autant plus justifiée que, si l'on en croit les données historiques les plus sûres, qui nous sont parvenues de la plus haute antiquité, la littérature des anciennes civilisations contenait réellement tout ce qu'il fallait pour favoriser le développement de l'intelligence humaine, si bien que son influence se fait encore sentir sur les générations actuelles. Selon moi, on peut parfaitement transmettre la quintessence d'une idée au moyen d'anecdotes et de dictons élaborés par la vie même. Aussi me servirai-je pour exprimer la différence entre la littérature des civilisations d'autrefois et celle d'aujourd'hui d'une anecdote très répandue chez nous, en Perse, sous le nom de « Conversation de deux moineaux ». On raconte qu'un jour, sur la corniche d'une haute maison, étaient posés deux moineaux, l'un vieux, l'autre jeune. Ils discutaient entre eux d'un événement qui était devenu pour les moineaux la question brûlante du jour. L'économe du moulla avait jeté par la fenêtre, à l'endroit où les moineaux se rassemblaient pour jouer, quelque chose qui ressemblait à des restes de gruau, mais n'était en réalité que du bouchon coupé fin, et quelques jeunes moineaux encore inexpérimentés, qui s'étaient jetés dessus, en avaient presque éclaté. Tout en parlant, le vieux moineau se hérissa soudain, et avec une grimace douloureuse, se mit à chercher, sous son aile, les poux qui le torturaient. Ces poux qui envahissent les moineaux quand ils ne mangent pas à leur faim. Puis, en ayant attrapé un, il dit avec un profond soupir. « Eh oui, les temps ont bien changé. La vie est dure aujourd'hui pour nos frères. Autrefois, tu te posais quelque part sur un toit, comme nous en ce moment, et tu y sommeillais bien tranquille, quand tout à coup un bruit s'élevait dans la rue, un fracas, des craquements, et bientôt après, se répandait une odeur qui te remplissait d'allégresse, parce que tu pouvais être sûr qu'en volant sur les lieux où tout cela s'était produit, tu trouverais de quoi satisfaire ton besoin le plus essentiel. Aujourd'hui, du bruit, des craquements, du fracas, ce n'est certes pas ce qui manque, et à chaque instant se répand aussi une odeur, mais cette fois, une odeur presque impossible à supporter. Et si par hasard on s'envole par vieille habitude dans les moments d'accalmie, en quête de quelque chose de substantiel, on a beau chercher et tendre son attention, on ne trouve rien d'autre que des traces nauséabondes d'huile brûlée. Ce récit fait allusion, comme vous l'avez sûrement saisi, aux anciennes voitures avec leurs chevaux, et aux automobiles actuelles qui, comme le disait le vieux moineau, produisent des grincements, du vacarme et de l'odeur, davantage même qu'auparavant, mais tout cela sans aucune utilité pour la nourriture des moineaux. Et sans manger, vous admettrez qu'il est difficile, même pour un moineau, d'engendrer une descendance saine. Cette anecdote illustre de manière idéale la différence que j'ai voulu faire ressortir entre la civilisation contemporaine et les civilisations des époques passées. La civilisation moderne, tout comme les anciennes, dispose de la littérature pour servir au perfectionnement de l'humanité, mais aujourd'hui, dans ce domaine comme dans tous les autres, il n'y a rien d'utilisable pour ce but essentiel. Tout n'est qu'extérieur. Tout n'est, comme disait le vieux moineau, que bruit, vacarme et odeur nauséabonde. Pour tout homme impartial, cette vue sur la littérature actuelle peut être confirmée de manière indiscutable par le fait qu'il existe une différence évidente dans le degré de développement du sentiment chez les gens qui sont nés sur le continent d'Asie et y ont passé toute leur vie, et chez ceux qui, nés en Europe, y ont été éduqués dans les conditions de la civilisation contemporaine. De fait, comme l'ont constaté de nombreux contemporains, chez les hommes qui vivent aujourd'hui sur le continent d'Asie et qui, en raison de diverses conditions géographiques et autres, sont isolés de l'influence de la civilisation actuelle, le sentiment connaît un développement bien supérieur à celui des peuples d'Europe. Et le sentiment étant la base même du bon sens, ces hommes, tout en ayant moins de connaissances générales, ont une conception plus juste de l'objet sur lequel se porte leur attention que ceux qui représentent la fine fleur de la civilisation moderne. Chez un Européen, la compréhension de l'objet observé ne peut se faire que s'il possède à son sujet une information mathématique complète, tandis que la plupart des Asiatiques saisissent, pour ainsi dire, l'essence de l'objet observé, parfois avec leur seul sentiment et parfois même avec leur seul instinct. À cet endroit de son discours, le vieux lettré persan aborda une question à laquelle s'intéressent de nos jours la plupart des Européens qui se préoccupent d'instruire et d'éclairer le peuple. Il dit « Pendant un certain temps, les peuples d'Asie ont été captivés par la littérature européenne, mais ils ne tardèrent pas à sentir toute la nullité de son contenu et cessèrent peu à peu d'y porter intérêt. Aujourd'hui, couche scientifique et descriptive de la littérature européenne ou à toute autre forme de pensée didactique, l'oriental, moins diminué dans sa faculté de sentir, c'est-à-dire rester plus près de la nature, éprouve à demi consciemment et ressent instinctivement l'absence complète chez leur auteur de toute connaissance du réel et de toute compréhension véritable de l'objet dont il traite dans ses ouvrages. Telles sont les raisons pour lesquelles les peuples d'Asie, après avoir manifesté un grand intérêt pour la littérature européenne, ont peu à peu cessé de lui accorder la moindre attention, au point qu'aujourd'hui, ils ne lui réservent plus aucune place. Cependant qu'en Europe, dans les bibliothèques privées et publiques, et dans les librairies, les rayons croulent sous le nombre croissant des livres journellement édités. Mais vous devez sans doute vous demander comment il est possible de concilier ce que je viens de dire avec le fait qu'actuellement les Asiatiques, dans leur immense majorité, sont à proprement parler de simples illettrés. À cela, je vous répondrai que la raison essentielle du manque d'intérêt suscité par la littérature contemporaine réside dans ses propres défauts. J'ai vu moi-même comment des centaines d'illettrés se rassemblent autour d'un seul lettré pour écouter la lecture des Écritures saintes ou celle des contes des mille et une nuits. Vous m'objecterez naturellement que les histoires qu'ils entendent sont empruntées à leur vie même, ce qui les rend compréhensibles et intéressantes pour eux. Mais là n'est pas la question. Ces textes, et en particulier les contes, sont de véritables œuvres littéraires dans toute l'acception du terme. Quiconque les lit et les entend sent bien que tout y est pure fantaisie, mais d'une fantaisie conforme à la vérité, si invraisemblable qu'en soient les différents épisodes par rapport aux conditions ordinaires de la vie des hommes. L'intérêt s'éveille chez le lecteur ou l'auditeur, émerveillé de la subtilité avec laquelle l'auteur comprend le psychisme des hommes de toute caste autour de lui. Il suit, avec une intense curiosité, la manière dont toute une histoire se construit peu à peu à partir de petits événements de la vie réelle.
This is a song to thank you all for being my good friends. You only number just a few, but you are my good friends.
Guru Sri Hariyakandi Bhagwan Ki महाराज की
जय
अकाल सिद्ध श्री हरियागंद विश्व मदाम की
जय
काशी के पुरारी नाथ श्री महाकाल भैरव की
जय
जगदम्बे मात की
जय
हरियागंदेश्वरी मात की
जय
बजरंग बली की
जय
सनातन धर्म की
जय
धर्म की
जय
धर्म का नाश हो प्राणियों में
सद्भावन हो
विश्व का
कल्याण हो
Sambasara Shiva, Sambasara Shiva, Sambasara Shiva, Bo. Paraka Prera, Kajaka Pati Bo. Jaya Jaya Hariyakana Vihari. Bloed aan je handen, hebben schande. 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 Bloed aan je handen. Oorlogsprofiteurs, weg uit onze stad. Oorlogsprofiteurs, weg uit onze stad. Oorlogsprofiteurs, weg uit onze stad. Oorlogsprofiteurs.
Tu mai io mamma sana nureva alla cago sara shama deva para maraya maya ritaya tumhar sharana gatta ko chika ubar to na sokka samonindra e jagame
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Klebnikov, The Sound You Can't Ignore.
Laat ons daar eerst even naar luisteren.
それは泣き声です。ラジオクレブニコフです。
Wel, ja, dat leidt dan tot de volgende vraag.
Oh, Thank you. You may talk about the latest of your own. These bone wheels that will rob you of their home. They are looking for home. They are looking for home. The first time I seen a bone weevil, he was sitting on the square. The farmer, he took the boll weevil, put him on the ice. The boll weevil says to the farmer, you treat me mighty nice, and I will have a home. I will have a home. The old man said to the old lady, what do you think of that? This next verse is about myself. And when I'm done, I hope you sing along with me on He's Looking for a Home. I said, if anybody asks you people who sang you this song,